titre qui est un peu prétentieux, mais il est volontairement prétentieux pour vous dire que l'on trouve la crise à l'heure actuelle. Donc on est plutôt dans la découverte du problème, c'est la crise qu'on s'aperçoit au moment de construire la décision actuelle. Et bon, j'ai bien apprécié la présentation précédente parce que là, il y a beaucoup plus d'analyse sur les gestes techniques. Bon, ils ont commencé dans la préhistoire, donc ils ont eu le temps d'étudier. Nous, on a, avec la réalité virtuelle, c'est un peu plus récent, donc on a un peu moins de temps pour étudier ces gestes, mais on est justement dans la même problématique de comment comprendre le geste de la création de ces récits-là. Juste une question, combien parmi nous ont déjà utilisé un casque de réalité virtuelle? Donc, tout le monde en connaît, donc c'est presque tout le monde, c'est très bien. Donc le but du jeu, c'est on va utiliser des casques pour construire une expérience immersive. D'accord ? Donc voir une réalité numérique en 3D à travers le casque, mais ce n'est pas que de positionner deux objets dans une scène numérique en 3D immersive. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire là-dedans. Donc la première chose, c'est construire le récit. Quel est le message qu'on veut véhiculer, quelle est la narrative, et on comprend très bien dans les exemples que si on n'a pas une intention, on n'a pas un récit qui va bien, ben, tous les objets qu'on mettra sur la scène n'ont pas de sens, les gens ne comprendront pas, ou en tout cas, ne comprendront pas le message qu'on veut faire passer. Donc il faut vraiment guider l'utilisateur dans cette expérience parce que les ressentis vont être très différents selon les vécus des individus. Donc ici, je vous donne un exemple d'une application qui en a construit et qui je vais utiliser comme exercice d'analyse par la suite. Donc on est sur une simulation où on met la personne dans une scène doit traverser la rue, donc d'aller d'un bâtiment à l'autre, et on a placé des objets à gauche et à droite pour qu'elle réalise certaines tâches. Comment je peux communiquer à la personne qu'elle doit prendre la boîte qui est juste à côté du trottoir, voilà, il a traversé, la faire traverser la rue et aller de l'autre côté et être dans le bâtiment. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a fait un choix donc, qui est explicite de placer une information, donc prendre la petite boîte et cette tâche qui est, elle vient dans la scène, elle vient interférer quelque part dans la scène elle-même. Mais si je ne l'avais pas, je n'arriverais pas à mon but de faire l'utilisateur vivre cette expérience de qu'est-ce que ça veut dire prendre un objet et le traverser et le poser là. Donc ça pose plein de questions, on ne sait pas très bien le faire, on sait construire, on sait poser l'information, ce qui pose beaucoup de problèmes dans le positionnement, parce qu'à chaque fois que je rajoute une instruction comme celle-là dans la scène, ça me pose un problème d'occultation, c'est-à-dire que je ne vois plus les objets qui sont derrière, ou qui vont créer une chaîne visuelle. Je peux aussi transformer en audio, d'ailleurs c'est accompagné avec l'audio, mais il y a aussi les interférences du bruit, du son que j'ai mis dans la construction de la scène. Donc vous voyez, il y a des tas de choses qui c'est très compliqué à les positionner dans la scène-là. Mais on sait que ça a un impact sur la construction du récit. Il y a une autre chose aussi qui est accessoire, mais qui est très importante aussi, c'est au moment où j'ai positionné les objets de la scène, il faut que je communique aussi les degrés de liberté que la personne a pour bouger. Aussi bien dans l'espace virtuel, donc savoir si, est-ce que je peux ouvrir cette porte, parce que parfois la porte est là, je ne la vois, mais est-ce qu'elle est mobile? Est-ce que le mur qui est là il est virtuel? Bon, là, on monte réel, voilà, mais dans un monde virtuel, est-ce que je peux le traverser ou pas? Comment je communique la signification de ces objets et qu'est-ce qui se passe quand j'ai interagi avec ces objets? Et parallèlement à ça, il y a la conscience de que les gestes dans le monde réel, les gestes physiques, ils sont là. Donc il faut aussi que je communique à la personne, il ne va pas trop, sinon on va renverser la table qu'il y a là. Il ne va pas trop derrière, on va s'éloigner contre le mur. Donc il y a aussi, on veut quelque part communiquer à la personne, on est dans un monde immersif, virtuel, on veut une expérience, mais il ne faut pas être complètement déconnecté du monde réel. Donc, vous voyez, ça fait une autre lacune assez importante. Il y a une troisième, et je m'arrêterai à ces trois-là, bien qu'il y en a d'autres, il y a la question de comment je communique sur l'expérience que je vais créer à l'utilisateur. Et là, je vais me référer à un concept que l'utilise en informatique. Donc, bon, voilà, je suis informaticien, je vais préciser ça. Mais en informatique, on adhère beaucoup à la norme ISO qui définit l'expérience utilisateur. Et vous voyez, je parlerai de la définition tout à l'heure, mais j'essaie de vous montrer aussi que quand j'ai créé l'expérience, j'essaie de dégager une émotion. Donc ici, il y a une scène qui en avait créé dans l'équipe pour que les personnes comprennent le gel que certaines femmes, les jeunes femmes peuvent avoir dans des corps d'ingénieurs, par le regard, on peut déplacer, des commentaires, des mansplaining, etc. Donc il y a une situation qui a été faite qui permet à tout à chacun de se mettre dans la peau et de vivre. Donc ici, l'expérience, donc là il y a la fille, vous voyez les méchants garçons qui la regardent, qui la divisent un peu bizarrement. Et donc on peut ressentir dans le regard de ces avatars-là, cette expérience-là, et essayer de comprendre pourquoi il peut y avoir une certaine gêne. Donc comment on crée ces expériences, comment on crée ces émotions, et comment on fait passer le message comme il faut. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la notion du X, du expérience, que les gens utilisent un peu à tort et à travers, avec plein de définitions, mais qui sont bien codifiées dans la langue ISO. On a des définitions, et on essaie de comprendre quelle est l'expérience vécue. C'est ça que ça veut dire du X dans la langue, c'est quelle est l'expérience vécue en termes d'émotion, en termes d'identification avec les objets, en termes de relations sociales qu'on arrive à créer avec les gens, etc. Donc la notion du X, elle est aussi malléable et flexible en fonction de ce que je veux créer. Je peux vouloir créer un récit qui va augmenter les contacts sociaux envers les autres. Donc socialiser des gens qui sont trop timides dans la vie réelle, par exemple, ou une phobie, utiliser des applications en réalité virtuelle pour aller vers les autres, ou générer une émotion particulière, comme c'était le cas dans la présentation suivante. Donc, de façon générale, en informatique, on s'adhère à des modèles théoriques comme la théorie de l'action, c'est-à-dire que l'utilisateur il a un but particulier et ce but il est accompli avec un système. Donc, on essaye de réduire un maximum la distance entre mon objectif et la capacité du système de combler les besoins là-dedans. Et il y a un gouffre, ça c'est très connu. Il y a les gouffres d'exécution et les gouffres d'évaluation. Le gouffre d'exécution, c'est la capacité que l'individu a de formuler une intention et après appliquer en tant que geste comme une entrée pour le système. D'accord ? Et à l'inverse, comment le système peut matérialiser une réponse, donc ça c'est la distance articulatoire, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aura pas trop le temps, mais si vous voulez on peut discuter de qu'est-ce que c'est la distance articulatoire et sémantique, et la capacité de l'utilisateur de comprendre cette réponse-là. Donc quand on analyse ces quatre types de distances-là, on arrive à déterminer l'effort nécessaire pour réaliser certaines tâches, et en étudiant des solutions de design, on peut réduire ces distances-là. Donc globalement, c'est que ça veut dire, donc ici j'ai un utilisateur qui est en train de vivre cette expérience, donc il est dans la scène que j'ai montrée tout à l'heure, et ça permet d'expliquer tous ces schémas-là, et il décrit la distance entre l'utilisateur qui utilise une scène. Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a une troisième composante majeure, et là, on a beaucoup d'abus parce qu'on a commencé à faire les études là-dessus, c'est que les designers qui ont conçu cette expérience, lui, il est utilisateur d'autres outils, mais en utilisant ces outils, ça peut avoir un impact sur l'outil qui est créé ici et en conséquence sur la perception du geste. Autrement dit, si l'utilisateur n'arrive pas à bien maîtriser l'outil de conception pour créer son récit, mais l'expérience qui va être le résultat de sa création ne va pas être perçue de la même façon. Et qu'il y a des barrières dans la construction de l'outil lui-même. Donc c'est ça qu'on appelle les lacunes de communication entre les concepteurs et les joueurs, et qui va au-delà de la scène elle-même. Donc une des choses qu'on avait fait, c'est, donc on avait fait une longue étude, donc c'est l'étude qu'on a présentée cette année, c'est relativement récent, c'est d'une part, on a repositionné la théorie de l'action dans l'axe entre les designers et les concepteurs du système, donc vous voyez là, et on a identifié les sources des problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc je peux avoir ce qu'on appelait des problèmes limitants de la conception. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai l'intention de faire quelque chose, mais je ne sais pas comment le faire. Je veux, par exemple, je vais avoir, si je prends un exemple assez parlant, donc j'ai l'intention de faire communiquer une ambiance joyeuse, agréable, pour que quand les gens entrent dans la scène, ils comprennent qu'il y a une fête qui va se dérouler ici. Donc ça c'est mon intention, Mais moi, je ne sais pas le faire. En tant que designer, c'est ma limitation. Je n'ai pas les outils qu'il faut, conceptuels, je dirais, pour le faire. L'autre chose, c'est, je sais le faire, je sais visuellement comment je pourrais faire sur le papier, mais au moment de transposer dans mon outil de réalité virtuelle, je n'ai pas l'outil qui va bien pour donner l'ambiance, créer la texture, créer l'éclairage qui va bien pour transmettre cette information. D'accord ? Donc, ce sont deux types, deux catégories de problèmes qui sont différents. Ensuite, une fois que j'ai finalisé ma matérialisation, je veux évaluer, donc je vais percevoir ce que je viens de réaliser et je vais essayer de comprendre, donc est-ce que l'éclairage que j'ai mis dans la salle est suffisant, est-ce que j'ai perçu la différence des changements d'intensité dans la salle pour indiquer que c'est une fête, je rentre dans la salle et tout s'éclaire par exemple. Donc est-ce que on est capable de percevoir ça, et puis est-ce que c'était le fait que je désirais. Donc là on est purement dans la théorie d'action pour revisiter un verre. Et là, on a fait exactement la même chose, mais transposé dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, une fois que l'application est finie, je veux évaluer comment l'utilisateur peut jouer avec cette application. Donc lui, il va rentrer dans la scène, d'accord, j'étais en train de construire en tant que concepteur tout à l'heure. Donc est-ce qu'il va comprendre les tâches qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a un impact sur la vie réelle? C'est que l'environnement numérique est virtuel. Est-ce qu'il comprend la situation? Est-ce qu'il comprend la narrative? Donc il sait les gestes. Est-ce qu'il a les bons gestes qui est attendu de lui? Par exemple, aller vers le fond de la pièce, prendre un verre, commencer à interagir avec les autres. Est-ce que j'arrive à l'amener à cette action-là? Et puis, est-ce qu'il arrive à comprendre ce qui est attendu d'eux et être satisfait de cette interaction? Donc du coup, ça ce sont les points qui peuvent poser des problèmes dans une évaluation des CRSI. Et bien évidemment, quand on est tout ensemble, on peut se poser la question si est-ce que les problèmes ressentis ici par l'utilisateur, parce que quand on va évaluer les personnes en conditions réelles, est-ce qu'eux, ils vont ressentir l'intention qui était voulue par les designers de l'autre côté? Donc est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'ils n'ont pas compris, est-ce que ça est lié à une des limitations qui viennent du processus de conception? Est-ce que la limitation de ne pas pouvoir mettre l'ambiance que je voulu, elle a été perçue par la personne et a un impact dans sa compréhension du récit? Ou bien, est-ce que la personne, elle a compris la même intention qui a été voulue ou elle a une déviation dans son interprétation? Donc pour étudier cela, on avait fait une étude avec des participants, donc c'était une étude avec un nombre restreint de participants, mais il y a plusieurs étapes. Donc il y avait d'abord une étape de design, donc on a pris deux gens, avec des profils très 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 variés, des designers, des informaticiens, des graphistes, qui sont venus, et ils ont utilisé un atelier, alors c'est pas un atelier de développement informatique, donc c'est un atelier des conceptions en 3D qui facilite beaucoup de choses, qui s'appelle Gusto 3D, qui a été développé par un doctorant. Donc globalement on a mis dans une pièce, dans une scène en 3D, plein d'objets, et les personnes, quand elles étaient dans le rôle du concepteur, dans les étapes de design, elles devaient créer l'histoire qu'ils voulaient, créer un récit en utilisant les objets qui étaient sur la pièce. Donc ils pouvaient placer des instructions comme je vous ai montré tout à l'heure, mettre du son, déplacer, positionner les objets, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, faire une petite histoire, un escape game ou autre chose, voilà, pour une durée relativement limitée d'interaction. Et ils devaient expliciter quelle était leur intention. Donc, ils construisaient une histoire et ils nous racontaient qu'est-ce qui était, qu'ils voulaient faire. Donc, par la suite, on a passé une étape d'évaluation, d'accord, dans laquelle la personne devait elle-même utiliser son expérience et dire si elle a eu des difficultés par rapport à l'usage des outils. Donc en fait, le but c'était de vérifier que par rapport aux quatre types de problèmes de conception, est-ce qu'elle avait identifié quelque chose qui pourrait gêner dans l'explication de son récit. Ensuite, cette application-là, on a donné à des utilisateurs qui ont fait les expériences et qui par la suite ont fait de la conception. Donc en fait, il y avait un cycle un peu en cascade. À la fois, j'ai joué le rôle de l'utilisateur et de concepteur à tour de rôle à ces moments-là. Et donc, du coup, quand j'étais, quand j'ai passé de la casquette du développeur à la casquette de l'évaluateur, j'ai évalué l'application faite par un autre designer, c'est pas la mienne, c'était une autre designer dans ces cas-là. Donc, on évaluait deux applications à ces moments-là, et autant que joueur, ils devaient raconter leur expérience. Donc, on avait mis en place un protocole, je ne vous ai pas réuni tous les détails, mais tout a été filmé, on a fait des petits canaux de protocole avec des questionnaires d'évaluation pour savoir, pour collecter l'information de la façon la plus précise possible de comment ça s'est déroulé ces expériences-là. Donc on a fait des retours sur ces deux expériences ici, et après, plus tard, quand l'expérience était finie, on invitait les participants à des post-tests sur l'application qu'il a conçue. Donc, on conçoit une application, on fait tester par d'autres personnes, et une fois qu'on a compilé les résultats, on fait une restitution au concepteur pour qu'il voit les écarts d'intention que lui il avait par rapport à ce qui était descendu par exemple. Donc c'est comme ça qu'on a conçu l'expérience, et je vais vous montrer un seul exemple, très très basique, parce qu'on a trouvé plein de problèmes comme ça. Donc ici on avait une scène, donc vous voyez l'environnement des conceptions, donc c'est exactement l'environnement des conceptions. À l'intérieur vous avez la scène qui est ici, vous avez les contrôles de comment positionner les objets, et les designers, ils voulaient que les participants prennent un bouquin dans la bibliothèque et qu'ils passent quelque part, qu'ils passent dans la scène. La tâche de quoi faire avec le bouquin, elle expliquait un peu plus tard. C'est ça qu'il voulait. Pour lui, c'était juste montrer que l'objet, que l'utilisateur pouvait explorer la bibliothèque et qu'il pouvait prendre le bouquin, l'ouvrir et voir ce qui était à l'intérieur. C'était ça son intention au départ. Par contre, au niveau de la conception, lui, il n'a pas spécifié dans sa tâche quel était le bouquin qu'il fallait prendre. D'accord. Et quand on lui a fait tester lui-même son application, parce qu'il a dû jouer l'application, lui, il a bien évidemment dit « Ah, je veux qu'il prenne un bouquin et qu'il regarde, machin. » Bah oui, j'ai pris le bouquin, j'ai regardé, ouais, c'était exactement ce que je voulais. Donc le designer était très content. D'accord. Quand on a testé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les utilisateurs, ils ont réussi à prendre le bouquin. Donc au niveau du geste, il n'y a pas eu de gêne, il était bien conçu. Voilà. Et par contre, ils ont passé beaucoup de temps pour dire, est-ce que j'ai pris les bons bouquins? Ils se posaient la question, est-ce que j'ai pris les bons bouquins? Est-ce que j'ai pris celui qui était voulu? Et donc, du coup, il y a certains qui ont bouclé, qui ont essayé plusieurs, ils voulaient, ils avaient toujours, dans cette incertitude, est-ce que j'ai pris les bons bouquins? Est-ce que c'est ça qu'ils voulaient? Donc, vous voyez la même réaction émotionnelle qui a été générée, qui n'est pas très positive pour certains des participants, uniquement parce que, un détail mineur pour les concepteurs a un impact majeur pour les participants. Donc, je vous ai parlé pas mal de choses, mais si vous êtes intéressé, je peux vous montrer les détails de l'étude. C'est que comme on a collecté pas mal de données, on a réussi à identifier certaines corrélations entre. Donc là, ici, vous voyez, il y a des boîtes rouges et des boîtes blanches qui correspondent à ça. D'accord. Donc dans cet exemple-là, le problème qu'on a eu, c'était au niveau de l'explication. Le concepteur, il savait très bien ce qu'il voulait faire. Donc voilà, il y avait juste un manque d'information au moment de la création du geste. Donc ça correspond à cette boîte-là. Et donc on voulait voir si par rapport au schéma qui était là, est-ce qu'il y avait une corrélation entre les phases où on a identifié les problèmes et les chemins globaux, et on a trouvé les résultats. Donc voilà, ça reste un échantillon relativement petit, c'est une première expérimentation qu'on avait faite, mais qui sont suffisamment significatifs pour dire effectivement, si je ne propose pas les bons outils pour les designers, même en guidage pour qu'ils comprennent aussi comment construire l'expérience, on peut avoir certains problèmes qu'on peut, je dirais pas prédire, mais parce que ce n'est pas tout à fait prévisible, mais en tout cas, il y a une énorme corrélation dans le résultat qu'on a observé au niveau de l'expérimentation. Donc, je vais m'arrêter là, parce que j'essaie de garder le temps en détail. Donc voilà, on a trouvé certaines corrélations, d'accord. Je ne vous ai pas montré toutes. Je ne vous ai pas montré ici non plus, mais on a trouvé aussi d'autres études, l'impact que vous pouvez avoir au niveau des incarnés. Il y a énormément d'études aujourd'hui, on maîtrise tout bien l'expérience ils ont vu cette expérience. Donc ça, c'est plutôt bien de faire à l'heure actuelle, mais il y a aussi il a commencé à observer, donc dans les études que sous le même scène, on avait capturé des données physiologiques, et donc on est capable de mesurer, par exemple, le niveau d'espèce de la personne, ou de, l'émotion fine, non, mais on a quelques paramètres qui peuvent nous indiquer comment la personne s'est positionnée sur la scène. Donc par exemple, on a constaté que l'inclination du corps lors du déplacement est un impact majeur. Les gens qui ont l'habitude d'utiliser les casques de réalité virtuelle, et ils marchent normalement, vous voyez que quand je marche, j'ai une inclinaison du corps vers l'avant. Les gens qui ne sont pas rassurés, ils sont légèrement penchés en arrière. Et ça, on arrive avec des capteurs de base, on arrive à détecter. Donc on arrive à capturer quel est l'effet sur le corps et sur les émotions, la perception de cette expérience avec des capteurs physiologiques. D'autres exemples, c'est la conductivité de la peau et l'événement cardiaque. Il y a une corrélation entre les deux qui permet de positionner plus ou moins les émotions. Alors, quand je parle d'émotions, c'est plutôt au niveau de l'estimulation et de la balance. D'accord ? Donc, est-ce que c'est une émotion plutôt positive ou négative ? Est-ce que c'est important ou pas ? Donc, à ces niveaux-là, on arrive à collecter bien l'information avec ces capteurs-là. Il y a des études en IA où les gens ont capturé beaucoup de données, ils essayent de donner une interprétation, est-ce que c'était de la joie, est-ce que c'est de la colère, est-ce que... Voilà. Je pense qu'il y en est trop tôt pour arriver à cette analyse fine des émotions, mais en tout cas, il y a des études qui commencent à se faire. Mais juste pour vous dire que à chaque fois qu'on crée ces expériences-là, il y a un impact énorme sur les gens. Et parfois, c'est un comportement trahi par le corps. C'est-à-dire que les gens sans les casques, ils ont des réponses qui sont complètement différentes de celles qu'ils ont avec les casques. Ça peut changer beaucoup, donc c'est une grosse lacune. Et après, il y a aussi l'histoire de... on a beaucoup d'études dans la littérature qui parlent des évaluations des applications on-shot. On fait une application, on les teste. Mais est-ce que si je réutilise l'application, est-ce que je vais reproduire la même émotion ou avoir la même expérience? Ça, il y a des études qui sont... très 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 intéressant là-dessus sur l'interprétation de ces réactions dans les temps, et on voit qu'il y a des phénomènes d'accoutumance ou certains phénomènes des changements de la perception. Donc il y a des études qui ont été faites sur de longues durées. Longue durée, c'est au-delà de 40 minutes d'usage quotidien des casques de réalité virtuelle. Donc il y a des gens qui l'utilisaient pendant une heure, deux heures au quotidien pendant une certaine période, et ça a changé les patrons de rêve, de leurs rêves pendant une période, à tel point que certains disaient qu'ils avaient des hallucinations pendant une période, mais au bout de quelques semaines, ça disparaissait. Donc même cette empreinte qui était faite au niveau du cerveau, elle disparaissait par la suite, donc il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus. Et je vais finaliser avec cet exemple-là, qui est une autre lacune qu'on traite peu ou pas assez, je trouve, et que ça nous concerne tous quand on fait une installation, c'est que là, je vous ai parlé du concepteur et du joueur, mais en réalité, l'écologie d'une installation est beaucoup plus large que ça. Donc ici, j'ai pris des travaux des collègues qui ont analysé la construction d'une installation immersive. Donc vous avez ici les joueurs, qui est là. D'accord. Il y a aussi éventuellement dans certains cas des personnes qui sont à distance, qui ont un rôle participatif dans l'expérience. Il y a aussi toutes les gens qui ont un rôle opérationnel, c'est lui qui contrôle l'expérience, éventuellement des acteurs, les opérateurs, c'est lui qui va chercher d'autres personnes. Il est là que d'attente, les gens qui viennent voir, et donc les expériences d'anticipation ou des effets d'être juste l'expérience, si j'attends beaucoup, si j'attends énormément, c'est qu'est-ce que je vois de la personne qui est en train de faire, si la personne commence à avoir des réactions de peur, etc., peut-être que je vais sortir de la queue, je n'ai pas envie de vivre ça. Donc vous voyez, ça change l'ensemble de l'expérience. Et puis il y a des tas de gens qui sont périphériques, qui sont là, qui sont dans une sorte d'attente, des situations d'attente, mais qui ont un rôle majeur dans la formation d'opinion sur l'expérience. Parce que je ne sais pas si vous voyez, si vous vous souvenez de la définition de la norme ISO que je vous ai montrée au départ. L'expérience, le mythe, elle peut être anticipée. C'est l'effet, j'adore le terme, lèche-vitrine. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vécu l'expérience, mais je la regarde, je dis, ah, c'est super, je veux la vivre, cette expérience-là. Donc, le mythe, c'est, tient compte de ça. Et tous ces gens-là, qui sont tout autour, là, l'expérience qu'on construit ici, voilà, elle peut affecter aussi le relation en fonction des différents rôles que la personne sont là. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer davantage en détail, mais j'aimerais. Je serais content de discuter avec vous si vous avez des questions. Merci.
Merci. Des réactions, des questions, des commentaires.
On a le droit de combien de réactions. mais moi, je veux bien commencer, sauf si quelqu'un est plus pressé que moi. Donc, j'ai plein de questions. Merci beaucoup, Marco. Moi, j'aimerais d'abord savoir quel est l'impact de la culture socio-technique des jeux vidéo sur la perception de la VR, que ce soit des jeux vidéo classiques ou immersifs, parce qu'il y a tout un langage corporel qui s'est inscrit dans notre quotidien. Enfin, moi, je ne suis pas joueur, mais je vois bien que même en n'étant pas joueur, je me sens concerné. Est-ce qu'il n'y a pas d'ores et déjà une espèce de strate qui est un premier substrat?
Excellente question, parce qu'effectivement on observe, et c'est pour ça que quand on fait des tests, on essaie d'avoir des gens qui ont des expériences très très variées, parce qu'il y a un phénomène de culture, notamment au niveau de l'univers du jeu vidéo. Il y a des gens qui adorent jouer, mais qui refusent systématiquement le jeu en VR, voilà, qui sont fin de jeu des années 90, voilà, et des flippers, des choses comme ça, et qui trouvent que les expériences immersives similaires ne sont pas adaptées, si jamais assez bien, etc. Parce que le vécu qui est, le ressenti qui est créé est complètement différent. Une expérience immersive, elle est très différente d'une expérience du jeu vidéo où on joue avec sa console dans un canapé. Donc physiquement, il y a quelque chose qui est introduit là-dedans. Et après, il y a effectivement le phénomène des cultures. Il y a des personnes qui sont plus perméables et qui veulent tout essayer. Il y a d'autres qui sont très réfractaires et qui, quand on les invite à faire l'expérience immersive, ont systématiquement des réactions contraires d'adoption de la technologie. Donc, à l'heure actuelle, on peut constater qu'il y a un phénomène de culture là-dessus et qui est très très variable dans la population aussi. On peut avoir des personnes âgées, je parle de personnes âgées. C'est un peu un cliché, mais des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer ou d'utiliser la technologie, mais qui viennent dans un musée, j'ai vu ça récemment, de certaines expériences immersives, et que je me dis, bon voilà, j'ai adoré, justement parce qu'il avait cette expérience qui me permettait de visiter un monument grec, rentrer à l'intérieur, donc il n'a pas les barrières de gens sont différentes. Donc les expériences, en conclusion, elles sont uniques. Le problème, avec moi, je dirais ça. Mais effectivement, il y a une certaine perméabilité, une influence du jeu vidéo, mais les transferts n'est pas automatique.
J'ai pas de questions, mais je vais laisser la main. Je frustre sur personne. Une question, elle concerne l'interférence du dispositif physique.
Énorme. Elle est énorme. On change de manette, on a un ressenti qui change, qui est différent. Même la construction de l'expérience, les poids du casque, là heureusement la casque sont plus légers, donc on peut les porter un peu plus longtemps. Mais le poids, c'est quelque chose qui était très contraignant dans les casques un peu plus anciens. Le fait d'utiliser un câble d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des casques qui n'ont pas de batterie intégrée, une batterie durent pas très longtemps, donc ils ont un câble derrière qui tire, donc ça c'est assez gênant. Aujourd'hui on arrive à avoir des casques et des batteries qui rendent les dispositifs un peu plus flexibles. Il y a énormément de progrès là-dessus, et ce qui fait qu'une baisse beaucoup de ces dispositifs commence à être un peu plus accessible. Ça c'est une énorme barrière également. Mais donc on perçoit tout ça, ça change complètement l'expérience. Comment on les mesure? Pour mesurer ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça, la perception peut changer complètement d'une casque à l'autre, d'une situation à l'autre. Le fait d'être assis, par exemple, il y en a beaucoup d'expériences qui pour éviter un risque de chute, de malaise pendant l'expérience en VR, Dans certains cas, on met la personne assise sur un fauteuil avec une roulette, de façon à ce qu'elle puisse bouger un peu si elle veut, mais qu'elle se sente en sécurité. Par exemple, et dans certains cas, ça nous permet, et ça c'est un truc intéressant, ça nous permet de certains types d'interactions qu'on ne ferait pas normalement. Par exemple, la marche simulée, je ne sais pas si vous connaissez la marche simulée. Donc il y a la marche réelle, je marche la vie réelle, chaque pas que je fais correspond au pas de mon oreille et de la scène. Et voilà, ça limite l'espace que je peux interagir. Donc pour aller au plus vite, je peux dire que chaque pas fait 10 mètres, par exemple. Ça perturbe énormément les participants. Il y a beaucoup de gens qui font malaise. Par contre, s'ils sont assis, là je peux utiliser la sorte de marche simulée, je peux aller plus vite. Ils sont rassurés, c'est l'effet. Les button feeling, comme on dit en anglais. On les sent, on s'est sent rassurés, ça c'est les termes utilisés par les pilotes de cockpit d'avion. C'est-à-dire qu'ils utilisent la pression de la gravité qui est générée par le déplacement pour comprendre si les gestes étaient bien ou pas aussi. Donc c'est l'effet d'être assis, le corps, et de transmettre une autre information qui est plus rassurante. Et donc du coup, je peux aller un peu plus vite avec la marche simulée, je ne fais pas de malaise.
Petit exemple, on a déjà parlé de ça tout à l'heure. Après, j'arrête pour dire. David Arnaud, qui est un de nos partenaires sur des projets communs, utilise la VR avec des verriers. Mm-hmm. Un peu l'artisanat. Et lui nous expliquait que la grande chance, c'est que le verrier, quand il utilise la VR, il doit apprendre un outil qui n'est pas son outil. Mm-hmm. Donc, il y a aussi un apprentissage de l'outil, je suppose.
Tout à fait. Oui. C'est un bon exemple. On travaille avec le CHU à Nice, à l'heure actuelle, pour la formation des chirurgiens et des médecins pour faire des gestes. On a discuté justement cette semaine, on a une réunion là-dessus, sur le fait qu'on change les médias de communication, donc bien évidemment, on va avoir un fait sur l'interprétation, sur les faire, et qu'ils se sentent un peu guidés dans les usages, qu'ils ne soient pas. Qui ne sont pas embêtés, qu'on peut utiliser des affordances. Des affordances pour guider, détecter par exemple la personne commence à regarder à gauche, à droite. Donc je peux déclencher dans la VR un guidage, je dis une assistance, en sorte d'assistance. Est-ce que vous voulez faire ceci, est-ce que vous voulez faire ça, est-ce que vous voulez avoir besoin d'un guide. Je peux faire rentrer un avatar, bien, je te montre, j'ai fait la visite du lieu, etc. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire avec des affordances. Par contre, une chose qui est très limitante à l'heure actuelle, et je pense que c'est très utile dans l'exemple précédent, c'est que le retour de force n'est pas au point. Donc du coup, si je dois montrer à quelqu'un qu'il a une certaine résistance dans son geste, donc je pense aussi aux verriers qui ont besoin de connaître quel point ils doivent imprimer un effort, là, il y a des dispositifs comme les phantoms qui permettent de faire des forces sur une station fixe, mais ils ne sont pas encore intégrés dans le dispositif qu'on a actuel. Donc il y a des études qui sont faites avec de la pression, il y a des nouvelles études aussi sur la température, la perception des températures. Je n'ai pas parlé de l'odorat et du goût, mais j'ai des collègues en Angleterre qui développent des applications qui permettent de changer le goût, l'odorat, avec des dispositifs qui sont assez étonnants. On met une languette électrique dans la bouche d'une personne, très expérimentale à l'heure actuelle, mais on peut faire plein de choses.